Je vais essayer de faire quelque chose un peu différent aujourd'hui, avec le conseil de Farid, de prendre un sujet un peu plus court, mais de me donner un peu plus de temps de parler. J'espère que ça va marcher. Et oui, on facilite le français. Bonjour à tous, et il est bon d'être avec vous tous aujourd'hui. Comme nous avons parlé déjà, le week-end de rentrée c'était super. Nous avons passé un très bon temps ensemble. Et pour qui n'ont pas pu être là, nous ont manqué. Ça c'est sûr. Nous avons passé un bon moment en communauté et revitaliser quelque chose que, à cause de la période Covid et le changement dans nos vies, nous avons un peu perdu dans l'Église. Nous avons recréé quelque chose en tant que famille. Et ça, c'est super. C'était bon de voir et de voir toutes les relations qui étaient recréées pendant ce week-end. Le week-end dernier, nous avons beaucoup parlé de suivre Jésus tous les jours. Nous avons eu ça et nous avons vu le fichier avant. Et du coup, oui. Le titre pour aujourd'hui, c'est un peu court. Je sais bien quel projet je forme pour vous. Dans le week-end, nous avons parlé de « Suis Jésus tous les jours », pas seulement en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu dans cette communauté. Nous avons aussi parlé de nos activités quotidiennes, nos activités dans l'Église, etc. Et finalement, comment nous soutenons l'Église et notre communauté. Nous nous sommes penchés sur la vision de l'Église et sur la manière dont nous envisageons de suivre Jésus au quotidien. Enfin, nous avons examiné le fait d'être une Église en mission, d'être un seul corps. Nous avons eu une merveilleuse parole et image de Joël qui a permis à Dieu d'intervenir dans les vies de beaucoup de personnes dans cette salle à ce moment. C'était super. Un mot qui me trottait dans la tête était « plan ». Simplement ça, « plan ». Je viens de le monde de l'entreprise. Et lorsqu'on nous parle de la vision, de mission, des plans, des stratégies, etc., il y a un ordre. Ce n'est pas possible de parler sur une vision seule. Parce qu'il y a une mission, il y a une stratégie, il y a un plan. Et les choses arrivent dans le bon sens. Si nous n'avons pas une vision, ce n'est pas possible de développer les missions, les plans, les actions, parce que tu ne connais pas où vous allez. C'est vrai. Une fois que vous savez où vous allez, vous pouvez développer votre mission, vos plans et vos actions pour réaliser cette vision. Ce que David a partagé autour de la vision la semaine dernière nous a permis de mieux comprendre la mission dont nous avons discuté dimanche. Nous avons parlé de la vision samedi, de la mission dimanche. Nos plans sont les actions détaillées qui composent chaque mission. Chaque mission est composée par le plan. Chaque mission permet d'atteindre la vision. Je sais que vous pensez maintenant, qu'est-ce que c'est cette mission? C'est un sujet un peu étrange à aborder. Oui. Dieu a placé les plans dans mon cœur, dans mon esprit, parce qu'il veut que nous entendions de lui les plans qu'il a pour nous. Les plans qu'il a pour cette église. On m'a rappelé le verset suivant dans Proverbe 19, 21. Il est très célébré, Jérémie 29, 11. Et il y a beaucoup d'autres. J'en cite quelques-unes. Et je sais, la première, Proverbe 19, 21, c'est la parole, l'équipe de sport mercredi soir a parlé un peu. C'est, oui, c'est une surprise pour moi, mais c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de le plan Dieu a pour nous. Proverbes 19, 21. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet que je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir à espérer. Je vais entrer dans plus de détails dans un moment. Psaume 32, 10 à 11. Le Seigneur de jouer les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Finalement, Proverbe 16, versets 1 à 3. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Il y a beaucoup d'autres versets dans la Bible sur les plans. J'ai voulu me concentrer un peu sur ceci, car je pensais qu'il était important de les comprendre dans le contexte de l'Église aujourd'hui, l'Église globale et notre Église. Jérémie 29, 11, c'est probablement l'un des pires versets à utiliser car il est tellement sorti de son contexte. Ça, c'est un problème. Quand on prie un verset de la Bible, c'est nécessaire de voir tout le contexte. Son contexte, ça, est merveilleux. C'est bien, nous sommes contents. Oui, tu as tout son contexte. On contrôle, c'est bien, tout va être bon. Non, c'est pas ça. Il ne fait pas référence aux promesses individuelles que Dieu a pour une seule personne. Ce texte n'est pas pour une seule personne. Il était écrit pour les peuples d'Israël. Il parle des temps difficiles dans lesquels les Israélites vivaient. il parle des Israélites retenus en captivité à Babylone. Ils étaient en exil. Il venait de dire aux Israélites, c'est Dieu, que cela ne se produirait pas avant 70 ans. Les peuples d'Israël ont demandé de sortir Babylone, de rentrer, et Dieu a dit, oui, bien sûr, après 70 ans, c'est bon. Et n'oublie pas, j'ai cette promesse pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais 70 ans, j'ai un petit problème. Peut-être que je ne suis pas là pour cet événement. Oui, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Les Israélites ont écouté 70 ans, ils ont... Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit cette promesse, mais il ne réalise pas pour moi. Ça était le contexte. Pour toi, mon peuple, mon plan global pour toi est bon. La pertinence pour nous aujourd'hui est simple. Nous sommes son peuple aujourd'hui. C'est à cause de ça que nous sommes ici. C'est une partie de référence de Jésus qui est venu pour nous. Le verset parle de les promesses que dans la vie, il y aura de l'adversité, des difficultés. Nous passerons par des moments difficiles qui semblent ne jamais devoir finir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours le contrôle et l'important, c'est que nous ayons confiance en lui pour qu'il puisse nous guider dans les moments difficiles ou incertains. Même le Christ a eu une vie très difficile. Ce qu'il a demandé ne montre pas sa vie et ce que nous devons vivre. Il a toujours placé sa confiance en Dieu. Ça, c'est l'importance de cette parole, cette verset. Je suis plus favorable à l'examiner de Proverbe 19, 21. En prenant quelques minutes pour examiner cette verset et son contexte, ce verset a été écrit par Salomon. Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, et il a demandé la sagesse. La sagesse. Pour moi, si Dieu est venu et me demandait « qu'est-ce que tu veux ?», la sagesse, ce n'est pas sur la liste. C'est certainement pas premier. J'espère qu'il est sur la liste, je n'ai jamais fait une liste, mais... C'est un peu différent. Beaucoup de personnes demandent les richesses, l'amour, la famille, etc., etc. Une bonne vie, mais il a de demander la sagesse. La sagesse. Mais le roi David, son père, a élevé Salomon pour qu'il apprécie la sagesse. Il a compris que s'il devait diriger son peuple, il aurait besoin de la sagesse. Il y a un besoin d'être sage pour diriger son peuple. Ça, c'est pourquoi il a demandé ça. Il se sentait presque inadéquat pour le diriger. Ça, c'est pourquoi il a demandé. Dieu lui a accordé la sagesse et a donné à Salomon le cœur de vouloir partager cette sagesse et d'enseigner aux autres. C'est en partie ainsi qu'est né le livre de Proverbes. Il a besoin de partager cette sagesse avec nous. Et il a écrit le livre de Proverbes. Les Proverbes sont une sagesse exprimée en phrases courtes et générales. Le chapitre 19 peut être divisé en trois parties. La première partie parle de richesse et de l'intégrité. La deuxième partie, de la nécessité de la sagesse. Et la troisième, du respect de la volonté de Dieu. Examinons donc cette verset pour mieux comprendre ce que Salomon disait et comment cela s'applique à nos vies aujourd'hui et comment nous venons travailler avec les plans de nos vies. La première partie, l'homme élaborait de nombreux plans. C'est dans la nature de l'homme de s'inquiéter du lendemain, d'essayer de planifier toutes les choses dans sa vie. Il veut savoir comment il va se déplacer de point A jusqu'à point B. Cela nous donne de la sécurité. On trouve ça pour faire le plan. Souvent, nous examinons toutes les options possibles. Par exemple, on va par vélo, voiture, train, avion, pied. Et on choisit une, si dépend le temps, les choses, etc., etc. On complexifie les plans dans nos têtes. En général, nous n'aimons pas les changements. C'est vrai. Et nous n'aimons pas les surprises. Nous avons une plan. Je vais. Mais si quelque chose vient et change le plan, ça c'est un problème. On déteste ça souvent. Certains peuvent être des... Certains plus que d'autres... Nous remplissons nos esprits et nos cœurs de nombreux plans. Certains peuvent être des très bons plans et d'autres sont peut-être insensés. Je n'admettrai pas jamais avoir des idées insensées. Mais le point ici n'est pas que nous ne devrons pas avoir des plans, mais que nous devrions en avoir. La planification est importante. Ce que nous faisons de ces plans qui est primordial. Mais seule la décision du Seigneur se réalise. D'autres traductions parlent de but. Je préférerais un peu de ça si aide de mieux comprendre aussi. C'est le dessein de Dieu qui prévaut. Certaines traductions utilisent également la phrase suivante. Néanmoins, le conseil de l'Éternel qui subsistera. Ce que Salomon disait, c'est que nous devrions faire des plans, mais que nos plans doivent être soumis à Dieu. Nous devons rechercher son conseil et ne suivre pas les plans qui correspondent à sa volonté pour nous dans nos vies. Cela semble très facile, mais le problème est que souvent, nous ne demandons pas à Dieu de nous conseiller ou nous ne regardons pas nos plans avec les yeux de Dieu. Nous invitons Dieu dans nos projets, mais nous ne lui demandons pas de les guider. Nous voulons un coach de vie, pas un Père céleste de suivre. Ça, c'est la différence. Souvent, on ne demande pas à Dieu parce que on ne veut pas avoir son réponse. N'est pas? On a peur d'écouter Dieu. Peut-être ça un signe. Quelle est la volonté ultime de Dieu pour nous? D'être semblable à Christ dans nos vies. Le glorifier pour l'exalter. 1 Corinthiens 10, 31. Le salut et la sanctification de ses enfants. 2 Pierre 3, 9. Pour l'avancement de son royaume. Daniel 2, 44. Ça, c'est le plan ultime pour nous. Si telle est la volonté ultime de Dieu pour nous, si tel est le but vers lequel Dieu nous pousse ou nous appelle, alors nos plans devraient être faciles à suivre ou à décider. Nos plans glorifient Dieu. Nos projets font-ils progresser son royaume? Nos projets conduisent-ils au salut de son peuple? Peut-être il est plus d'ajouter, mais si nos plans ne font pas de ça, il y a une question. En plus de cela, nous devons avoir la foi. N'est-ce pas ce dont parlait Jérémie? Il promet que la vie sera difficile. Mais nous devons avoir foi en Dieu parce qu'il a vu d'ensemble. Et même si la foi peut sembler désordonnée, et que nous pouvons être très hésitants quant à nos prochains pas, nous devons avoir l'obéissance et vivre avec un peu de confiance pour faire ces pas en avant. Si nos plans suivent la volonté de Dieu, cela devrait rendre les choses facile. Nous devrions mesurer chaque plan à la volonté de Dieu. Matthieu 6, 33 le dit clairement pour nous. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Un autre mot, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu sur votre vie qui est d'être saint. Demandez-lui de vous le relever si vous avez un doute. Nous faisons ensuite le pas en avant avec confiance, sachant que globalement, pour son peuple. Ses plans sont pour nous de prospérer et il veille sur nous et contrôle toutes choses. Nous devrions soumettre nos plans aux dirigeants de l'Église, en particulier lorsqu'il s'agit d'une décision importante. Ça, c'est nécessaire. Ce n'est pas juste ouvrir nos vies et de partager les choses, on ne veut pas. Mais si tu prends une décision importante dans nos vies, dans vos vies, demande les diacres, les anciens dans l'Église pour ces conseils, pour ces avis, pour prier, etc. C'est important. Pour mettre aux personnes qui vous entourent de vérifier que les plans honorent Dieu. Nos plans sont dans nos têtes. On regarde les bonnes choses dans nos plans. Souvent, on oublie des choses. Et c'est les gens autour de nous qui nous aident, qui nous portent de voir le bon chemin. Vérifie que les plans honorent Dieu, le glorifient et font avancer son royaume. Il n'est pas nécessaire que soit l'ancien de l'Église, mais le responsable du groupe de vie ou quelqu'un de sage avec qui vous pouvez être conseillé. Mais c'est nécessaire. Quelqu'un qui est prêt de prier avec vous. C'est là qu'intervient notre quatrième verset, Proverbe 16, qui nous avons déjà lu, c'est « Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. » J'ai commencé à parler d'entreprise, de vision et de mission. J'ai parlé de la vision et de la mission de l'Église et j'ai parlé des plans et surtout du fait que les plans contribuent à la mission de l'Église. Nous avons parlé dimanche dernier du fait que nous formons, nous formons un seul corps et que nous sommes tous des pièces de même puzzle et que nous avons tous notre place. Il nous manquerait quelque chose si vous ne prenez pas votre place parmi nous. Il y aura un trou. En tant que partie de même corps ou partie de même puzzle, Dieu nous a rassemblés et en tant qu'Église, nous avons une mission commune. C'est la même mission. Et la beauté de l'image du puzzle ou de l'image d'être un seul corps, c'est que nos plans fonctionnent ensemble et se construisent ensemble. Les plans de votre vie, la mission que vous suivez, contribuent-ils à la même mission que l'Église aujourd'hui? C'est le cas ou pas? Ça, c'est une question ouverte. Font-ils partie de la même vision? Si ce n'est pas le cas, nous devrions remettre en question le plan. Soulever la question aussi auprès des diacres et les anciens et remettre en question. Peut-être, et ce censé faire partie de la mission de l'Église, et que nous ne l'avons pas encore commencé, au vu. Mais c'est nécessaire de demander. Parce que si l'Église va dans cette direction et tu commences à partir dans une autre direction, nous ne sommes pas ensemble. Et l'Église être ensemble. Si la pièce du puzzle n'est pas à sa place, l'image n'est pas complète. Nous sommes tous ensemble dans le même puzzle. Il n'y a pas quelques puzzles pour une église, c'est le même puzzle. Je vais terminer par ce bref résumé. En tant qu'église, nous devons soumettre nos plans au Seigneur et prier à leur sujet. Nous devons vérifier que nos plans suivent la volonté de Dieu et enfin nous devons avoir foi et confiance dans le Seigneur car il contrôle toutes choses et vérifie si les plans sont dans la même mission de l'Église. Parce que tu as besoin des autres dans vos plans. Amen.
Merci Andrew. Voilà.